histoire. Deux thèmes pour ce débat. Une trentaine de morts et plusieurs blessés. C'est les bilans de l'accident de circulation survenu dimanche dernier sur la nationale numéro 1, près de Manzangungu au Congo central. La défaillance du système de freinage serait à la base de cet accident, selon l'administration du territoire de Manzangungu. Une frange de l'opposition appelle le président de l'Assemblée nationale et du Sénat à accélérer le processus de désignation du porte-parole de l'opposition. Selon la loi sur les statuts de l'opposition, le porte-parole de l'opposition est l'interlocuteur attitré du gouvernement au sein de l'opposition. Tels sont les thèmes pour le débat de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de J.R. Mokolo, il est journaliste et producteur du magazine d'information ACC TV, une chaîne émettant de Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux nombreux auditeurs de Radio Okapi.
Merci Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Il est aussi rédacteur en chef du média en ligne objectifinfo.cd. Bonsoir Edmond Izouba.
Merci beaucoup Guy Maté de l'honneur que vous me faites ce soir.
Serge Banzaba, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Matadi. Bonsoir Serge Banzaba.
Bonsoir chers confrères, également un grand merci à la Radio Okapi qui me donne toujours l'opportunité de faire écouter notre voix un peu plus loin, la province.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant tout, on écoute comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine à travers cette revue de presse, ce que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Les journaux qui nous ont largement commenté cette semaine les sujets relatifs à l'accident de circulation dans la province du Congo central et à la désignation du porte-parole de l'opposition. Après l'accident d'un bus en Banzangungu dans la province du Congo central, survenu dimanche 20 octobre, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu lundi 21 octobre 2019 sur les lieux de l'accident pour s'enquérir de cette triste situation, rapporte La Prospérité. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, s'est montré visiblement affecté par cet accident de circulation. Il a ordonné le transfert des blessés à Kinshasa et l'on signale également que les dépouilles mortelles seront ramenées à Kinshasa où elles vont être inhumées, ajoute le journal. Le président de la République a dans un premier temps parcouru le lieu où s'est produit le drame, rapporte Forum des As. Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ensuite au chevet des blessés internés dans l'hôpital de Sonankoulou. Le couple présidentiel a par après visité la morgue où sont gardées les dépouilles de ceux qui n'ont pas survécu à l'accident, détaille Le Quotidien. Pour le gouverneur intérimaire du Congo central, cette présence de compassion au peuple né Congo prouve à suffisance que M. Tshisekedi est proche du peuple, renseigne Le Potentiel, qui rappelle que cet accident grave a eu lieu précisément au croisement de la route menant à Kamba et la nationale numéro 1. L'un des nombres provisoirement une trentaine de morts et 18 blessés, rapporte Le Potentiel. Félix Tshisekedi s'est renseigné sur l'état de santé de chacun des blessés et a trouvé les mots justes pour leur remonter le moral, note Le Phare. Selon Actualité.cd, des membres de l'Association des chauffeurs du Congo et quelques agents de la Commission nationale de la prévention routière opérant au marché frontalier de Loufou sont aux arrêts depuis lundi 21 octobre 2019. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir surchargé le bus accidenté dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 octobre 2019, mais aussi pour n'avoir pas recouru à un manifeste d'embarquement devant aider les services spécialisés à connaître le nombre exact des passagers qui ont pris place à bord de ce bus, indique le site web. Tractation pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Le dossier de la désignation du porte-parole de l'opposition devrait être bouclé dans les prochains jours. Dans un contexte marqué par l'affaire de détournement des 15 millions de dollars, le crash de l'avion présidentiel et l'hostilité de plus en plus palpable de la base de l'UDPS vis-à-vis de l'accord Cash-FCC, écrit Le Potentiel, relayant La Libre Belgique. La désignation du chef de file de l'opposition annonce l'entrée en scène d'un nouvel acteur dans la pièce qui se joue au sein de la classe politique congolaise. Un nouvel acte risque de se tenir dans le tout prochain jour. Tous les observateurs vont observer la façon dont Félix Tshisekedi s'affranchira du poids de son partenaire pour donner à son pouvoir les allures d'une vraie démocratie, conclut le journal. Désignation du porte-parole de l'opposition, les sujets divisent Katumbiste et Fayou List, titre case-info.ca, la dynamique pour la vérité des urnes monte au créneau pour s'opposer à la démarche entreprise par le groupe parlementaire MSG7 concernant la désignation du porte-parole de l'opposition, rapporte le média en ligne, expliquant que cette structure estime que l'initiative des katumbistes viserait à reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi. MediaCongo.net abonde dans le même sens. La dynamique pour la vérité des urnes considère également cette démarche comme un complot monté contre le peuple congolais pour enterrer définitivement sa volonté souveraine exprimée lors des élections du 30 décembre 2018, poursuit le média.
Merci Kelly. Écoutez, Guillermo Colo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Quelle est l'actualité que vous commentez ce soir?
Bon, je voudrais en tout cas ce soir rendre un hommage appuyé au père Léon de Saint-Moulin, un jésuite qui a séjourné au Congo pratiquement depuis plus de 50 ans et qui s'est consacré à l'histoire du Congo, a appuyé l'administration congolaise, tout ça. Donc il a beaucoup contribué à la formation même de l'élite congolaise. Il vient de tirer sa révérence le jeudi. Donc vraiment paix à son âme, et que ceux qui sont restés, ceux que lui a formés au niveau du Congo puissent pérenniser son action, puissent pérenniser le travail qu'il a bâti toute sa vie au Congo, en créant même une fondation, le père Léon de Saint-Moulin, pour qu'en tout cas cette éminence grise ne puisse pas partir avec tout ce qu'il a. Puis en tout cas, faire comme travail dans ce pays.
Merci Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, et rédacteur en chef du média en ligne objectifinfo.cd. C'est quoi l'actualité de la semaine que vous commentez ce soir?
L'actualité que je vais commenter, tout en présentant toutes mes sincères condoléances à la grande congrégation des jésuites et tous les jésuites en Afrique centrale, autour de la mort de père Léon de Saint-Moulin, je voulais commenter une actualité que j'estime cruciale pour notre avenir, l'avenir de la République démocratique du Congo et pour son développement. Nous avons tous assisté au discours du président de la République qui a axé son discours sur l'agriculture pour mettre fin à la pauvreté. C'était à l'occasion de la Journée africaine de la pauvreté. Le président de la République a estimé qu'il fallait développer une main d'œuvre congolaise. Et pour moi, j'estime que cela passe par une formation professionnelle appropriée pour nos jeunes. Pas plus tard que hier, j'ai suivi les ministres de la formation professionnelle qui est déjà à pied d'œuvre, a voulu mettre en place une usine de confection des tenues des militaires et des policiers, et qui seront engagés à travailler dans cette usine de raffinerie. Ce sont des enfants et des épouses des militaires. Donc une idée vraiment à encourager et à soutenir. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la logique de l'actuel gouvernement ou la philosophie du président de la République qui, pour lui, estime que le minerai ou le matière première que nous avons connue n'ont pas vraiment servi.
N'ont pas permis à réduire la pauvreté.
Absolument. D'où il faudrait explorer d'autres domaines encore plus prometteux qui pourra faire en sorte que le pays soit boosté vers le développement, notamment le domaine de la formation professionnelle, le domaine de l'agriculture, parce que nous ne pouvons pas envoyer les jeunes dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres entreprises ou usines sans pour autant qu'ils puissent bénéficier d'une formation adéquate. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons plus ces ministres en train d'aller de gauche à droite, d'aller ça et là pour chercher de moyens et mettre en place toute la philosophie gouvernementale et pourquoi pas du président de la République, Félix Tshisekedi.
Merci Serge Banzaba Basunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central Matadi. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui au Congo Central?
Merci beaucoup. D'abord, toutes mes condoléances à toutes ces familles endeuillées de cet accident. La route numéro 1, il faut dire que chez nous au Congo Central, la société est dominée par cet accident. Hein. Les commentaires vont dans tous les sens. Je ne saurais pas vous dire ce que les gens disent du Tchema Tadi sur cet accident, parce que la superstition bat son plein ici. Il y a également les motocyclistes de Moanda qui demandent la prolongation des délais pour les paiements des vignettes. Et enfin, nous avons également les arrestations en cascade de différents groupes de malfrats au terme des nouveaux cas de meurtre enregistrés dans la province du Congo central et de l'État. On a arrêté les gens à Matadi, on a arrêté les gens à Loufou, on a arrêté également ces malfrats au niveau de Boma, là, coup de chapeau au commissaire provincial de la police Congo central, Séguin.
Merci. Notre premier thème de ce soir, une trentaine de morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'accident de circulation survenu dimanche dernier sur la nationale numéro 1, près de Mbanzangungu au Congo central. Selon l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, c'est la défaillance du système de freinage qui serait à la base de cet accident. Et je vous propose de l'écouter.
Il y a un événement malheureux qui s'est produit ici à Mbanzangungu. C'était aux alentours de 1h moins, où un bus en provenance de Loufou, en train de faire Kinshasa, et comme il avait un problème de frein, le bus est arrivé à finir sa course dans une parcelle où, quelques temps après, le bus a pris du feu. On soupçonne que dans le bus, il y a eu du carburant et du whisky et plusieurs divers. Au moment où je vous parle, le bilan est catastrophique parce que jusque là, des corps sont en train d'être calcinés. Certains corps sont à l'hôpital de référence de Sonakoulou. Pour le moment, on se bat ou en train de chercher de l'eau pour essayer un peu d'atteindre le feu pour qu'on récupère même les poussières qui sont restées sur place. Mais il y a vraiment des rescapés qui sont là, il y a aussi des enfants qui sont là. Au moment où je vous parle, nous venons d'envoyer une deuxième équipe pour faire la ronde de toute la cité de Mbanzangungu pour voir si dans certains hôpitaux ou dans certains dispensaires, il n'y a pas de blessés.
J.R. Mokolo, cet accident a plongé tous les pays en émoi. Quelle est votre lecture par rapport à cet énième accident de circulation sur la nationale numéro 1?
Bon, je suis vraiment très concerné par ce qui vient d'arriver. Donc, énième accident de circulation sur cette route-là, énième accident de transport à travers le pays, je suis vraiment concerné. Mais avant de pouvoir faire en tout cas une analyse en profondeur, bon, je me félicite quand même du fait que pour la première fois, on voit un accident arriver sur cette route-là et le chef de l'État qui perturbe, qui arrête son programme de voyage au Japon et qui se rend sur place consoler les blessés et assister en tout cas, voir un peu ce qui s'est passé sur les lieux. Il était avec les membres du gouvernement aussi. Bon, on était aussi curieux de se rendre compte que même l'ancien chef de l'État, lui, qui restait comme ça insensible chaque fois qu'il y avait de tels événements malheureux. Cette fois-ci, il a quand même fait un message de réconfort aux victimes. Donc, c'est quand même, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Ça, ce sont des considérations d'ordre général. Mais je voudrais quand même faire remarquer que si cet accident a eu lieu, oui, on nous apprend que c'était une défaillance technique au niveau du véhicule. Mais on est aussi étonné de se rendre compte que on va transporter les humains avec des produits inflammables dans un même moyen de transport. Donc, je crois que s'il y a eu autant de morts, s'il y a eu des corps calcinés passés, il y avait des produits inflammables dans ces véhicules. Ce que je disais la semaine passée sur la même antenne de Radio Capi, que là, on est devant l'incurie dans la gestion des affaires de l'État. Donc, la négligence. Comment on peut, par exemple, mettre les passagers avec des produits inflammables sur un même véhicule? Autre chose aussi, s'il y a beaucoup d'accidents, par exemple, sur la route du Congo central, Kinshasa-Matadi, c'est parce que cette route-là est congestionnée. Il y a suffisamment de trafic. Et que cette route-là, au départ, n'a jamais été construite pour prendre en charge, par exemple, la circulation des poids lourds. On avait le port de Matadi, un port de transit, et que toutes les marchandises qui arrivaient au port de Matadi devaient embarquer sur les rails et arriver ici à Kinshasa à travers le port sec de Sokopao. Tout s'est fait ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué le chemin de fer. On a tué les transports ferroviaires à travers l'UNATRA. Tout comme on a tué aussi la SCZ au Katanga. Ce qui fait que cette route-là est surexploitée. Et même si on les réhabilite à tout bout de champ, mais la route est toujours en mauvais état. Et puis, on se pose aussi un problème. La prise en charge des accidentés. On se rend compte que le Congo aussi n'est pas préparé à pouvoir prendre en charge des catastrophes naturelles ou des accidents de circulation. Vous avez vous-même suivi dans les sons que vous nous venez en tout cas de nous proposer, que les gens se débattaient avec des seaux pour, par exemple, éteindre le feu.
À ce sujet, il y a même le docteur Freddy Mbakata, qui est député national et qui est dans l'humanitaire depuis longtemps, et qui avait proposé depuis toujours qu'on puisse mettre en place une banque humanitaire. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas attendre qu'il y ait des catastrophes. Il faut que le gouvernement congolais puisse avoir déjà une banque humanitaire. Bon, comme ça, chaque fois quand il y a une catastrophe, faut tout de suite, on sait comment intervenir.
Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle la protection civile, un service de l'État qui existe avec des moyens, des sapeurs-pompiers, pour intervenir chaque fois qu'il y a ce genre d'accident. Merci. Mais chez nous ici, on n'est pas préparé. On transporte tout le monde à Kinshasa. Et même pour identifier les corps, je ne sais pas si on est aussi équipé pour le faire.
D'ailleurs, le ministre de l'Action humanitaire a lui-même reconnu qu'on va enterrer ces corps sans pouvoir les identifier parce que l'état dans lequel se trouvent, on ne peut pas les identifier.
Voilà. Donc merci. Le pays n'est toujours pas préparé, le pays n'est toujours pas équipé en la matière, autant d'années après l'accession à l'indépendance, c'est déplorable.
Edmond Izouba, ce n'est pas les premiers accidents sur cette route du Congo central, mais apparemment, c'est l'accident qui semble avoir interpellé toute la nation congolaise. Pourquoi, à votre avis?
Tout simplement parce que ce n'est pas d'abord le tout premier accident, deuxièmement parce que le chef de l'État lui-même s'est déplacé, ça c'est une première. Aller assister le malade, tenir un conseil de sécurité sur place à l'hôpital et sanctionner les coupables. Et peut-être aussi ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est des problèmes liés des fois à la mentalité des voyageurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre. D'abord, moi, je responsabilise les voyageurs parce que ce sont eux qui prennent avec beaucoup de légèreté leur propre vie. Ils voyagent des fois avec les baluchons, les empêchant de voir devant. Les autres se permettent même à se mettre devant le chauffeur, devant le conducteur. Et voyez même, j'imagine que ça doit être un des clients qui aurait négocié à ce que les matières inflammables puissent être transportées. Ça, c'est une défaillance du côté des clients et c'est vraiment de l'inattention insupportable et inacceptable et inadmissible. Deuxièmement, c'est le propriétaire du véhicule. Lui, il a aussi une responsabilité. Comment laisser de telles matières être embarquées dans le véhicule? Ou soit les chauffeurs ou les gérants. Le manifeste est certainement dressé pour contrôler les clients, pour voir si le nombre est dans le bon, et ainsi de suite. Mais laisser des clients embarquer et faire monter ces matières, j'espère que cela ne pouvait pas rassurer les clients. Je doute même que les clients qui étaient à bord de ces véhicules, je parle de tous les clients, puissent savoir qu'il y avait de telles matières transporté. Donc, troisièmement, c'est les faiblesses constatées autour des frontières. Parce que j'imagine, avant de quitter au revoir Kinshasa, il y a une barrière. Il y en a plusieurs sur cette route. Et c'est la route qui fait entrer beaucoup d'argent au gouvernement central. Donc, vous avez des services tout à fait défaillants où on ne mesure même pas les tonnages. On ne fait même pas les contrôles des véhicules avant de passer à chaque barrière. Tout ce qui compte pour ces militaires, pour ces policiers qui sont au niveau des barrières, c'est de faire passer la main, c'est qu'on dit en lingala, les mbotalikasu. Et quand vous le faites, on ne fait plus mention d'aucune logique de sécurité en matière de transport. Et puis, troisièmement, j'ai appris que le véhicule avait un problème de frein. Ça, ça implique le contrôle technique. Et nous savons
c'est ça, la version
tous,
officielle.
Nous savons tous, voilà, le véhicule quittait Kinshasa, donc. Nous savons tous comment le contrôle technique s'est fait à Kinshasa. C'est que vous laissez votre véhicule à la maison, vous allez avec l'argent, vous achetez les contrôles techniques à la place qu'on puisse vérifier le véhicule en question, on vous donne plutôt un jeton ou on vous donne un reçu. Donc j'espère que ça doit interpeller tout le monde, le fait que le chef de l'État se soit déplacé lui-même pour aller voir et s'impliquer pour qu'il y ait des sanctions à tous les niveaux. Nous aussi les clients, nous aussi les chauffeurs, nous aussi les policiers.
Nous devons être exigeants aussi.
Nous ne devons pas laisser les véhicules, pas surtout les policiers.
laisser les véhicules dépasser une barrière sans pour autant que les véhicules soient contrôlés de fond à comble.
Merci Serge Banzaba Basunga. Vous avez suivi Edmond Izouba et J.R. Mokolo qui ont, n'est-ce pas, dénoncé cette incurie, n'est-ce pas, des autorités, pas seulement des autorités, mais aussi de la part des passagers. Et dans notre société, on a atteint un niveau de laxisme qui choque. Hein. Comment peut-on comprendre que cela a été relevé ici, que dans un véhicule, on puisse mettre et les êtres humains et les produits très inflammables. Comment vous expliquez cela?
Bon, d'abord, je dois m'acquitter des devoirs, celui de présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées hein, par rapport à cet accident. Il faut dire qu'un accident de plus au Congo central sur la même route, ça fait mal. Ça doit faire mal. On se pose des questions. Et est-ce que c'est un problème de route? Je pense que non, car la route est plus ou moins bonne. Problème de qualité des véhicules, problème des conducteurs, là c'est certain. Car pour les derniers cas en DAC, il y aurait eu un problème de frein et les chauffeurs assistants qui conduisaient étaient désemparés. À cela s'ajoute les surchargements et la nature des marchandises. À ce niveau, j'interviens les différents services de l'État. Réputés cacassiers, pour rien. Il y a la CNPR et l'association des chauffeurs. Je n'ai jamais été convaincu sur la raison d'être comme association des associations des chauffeurs qui devaient vivre de ces cotisations, mais cette association est illégale, généralement pour percevoir l'argent. De façon générale, nous disons que les services de l'État sont distraits et ont failli. Et moi, je doute fort des nombres de décès avancés, car souvent les manifestes présentés ne sont pas crédibles. La fiabilité des services rendus par les différents précis de l'État pose également problème, notamment pour les cas de Loufou. C'est un marché de recommander, donc de protéger. Quand vous y êtes affecté, vous êtes également protégé, donc vous devez faire vivre Kinshasa et puis faire vivre Matadi. Tout le temps les coups de fil de Matadi, tout le temps les coups de fil de Kinshasa, tout ça, ça pose problème. Ces gens-là ne peuvent pas bien travailler. Je pense que nous devons fiabiliser les services de l'État. Fiabiliser les structures de l'État. Nous pouvons peut-être bon crier ici, mais il y aura toujours un problème, crédibilité des services de l'État, c'est parce que les gens qui sont affectés à Loufou un peu partout, en venant ici à Matadi, non loin de là où vivent toutes les autorités de la province à Matadi ici, au Pomposo, il y a beaucoup de services là-bas qui devaient faire la sécurité de la ville, qui devaient contrôler. Mais la première vie, c'est l'argent qu'ils demandent. L'association des chauffeurs, j'ai toujours été contre ça. Vous créez votre association? Après, vous commencez à percevoir l'argent de la part de l'État. Je suis contre ça. Donc, l'État doit un peu revoir la qualité des services rendus. Il doit réellement protéger la population.
Ok, J.R. Mokolo, chaque fois que se produit, n'est-ce pas, de tels incidents, tout de suite, tout le monde évoque le non-respect de la norme, mais apparemment, personne ne fait respecter cette norme-là.
Bon, depuis pratiquement l'indépendance jusqu'à maintenant, depuis que nous, Congolais, nous avons pris notre destin en main, que nous gérons notre pays, apparemment, nous prenons des libertés avec les normes, avec les règles de fonctionnement de l'État, et nous n'apprenons pas de nos horaires. Vous allez apprendre qu'après l'émotion, après que le chef d'État se soit déplacé, que le gouvernement ait pris en charge tout, demain, nous allons apprendre qu'il y a eu un autre accident, fait de navigation, et on mettra toujours en cause le non-respect des normes. C'est un peu ce qui me surprend, qu'au Congo, on ne tire jamais les leçons de ce qui se passe, et qu'on ne cherche pas, à travers les erreurs du passé, à travers les accidents, à pouvoir améliorer notre gouvernance pour que nous ne puissions pas retomber sur le même travers. On ne peut pas dire que les accidents n'arriveront jamais. Il n'y a pas un pays dans le monde où il y a zéro accident. Mais on peut toujours, en étant sérieux dans la gestion, éviter que de telles catastrophes puissent arriver. Je vais prendre la question de navigation. Vous vous rendez compte, nous avions Onatra ici, qui n'a jamais connu autant de naufrages, autant d'accidents. Mais c'est l'État lui-même, ce sont les proposés de l'État qui ont tué les transporteurs publics pour créer des sociétés de transport privés qui eux-mêmes gèrent et eux-mêmes profitent de cela. Vous prenez par exemple les transports aériens. Air Zaïre, à l'époque de Feu Maréchal, jusqu'à une certaine époque, zéro crash, zéro mort. Mais comptez les morts qui sont enregistrés suite à des accidents d'avions et transporteurs privés qu'on nous amène ici, des Antonov, tout ça, qui sont déclassés ailleurs, qui ont pignon sur riz au Congo. Donc, je crois qu'il faut que cette fois-ci, on puisse quand même établir les responsabilités. Il ne suffit pas d'arrêter les responsables de la SECO, il ne suffit pas d'arrêter les responsables des SENPER, qui n'est même pas un service de l'État qui s'occupe du contrôle. C'est la police spéciale de circulation routière qui est chargée, je crois, de s'occuper de tous ces problèmes de surcharge. Est-ce que vous êtes en ordre ou pas? Je crois qu'il faut qu'on tire les leçons et qu'on assume les responsabilités à chaque niveau. Les transporteurs lui-même, les services de l'État qui ont failli, pour que les gens apprennent en tout cas à être sérieux. Parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir attaquer les conséquences, mais il faut s'attaquer aux causes pour que plus jamais on assiste à de telles catastrophes.
Merci Moïse Ouba, parce qu'il faut tirer les leçons de cet accident comme l'a suggéré J.R. Mokolo. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour prévenir d'autres accidents? Ne faudrait-il pas réhabiliter la voie ferrée comme vous l'avez relevé?
Non, il y a plusieurs choses à faire. Moi, j'estime que seules les décisions ne suffisent pas, c'est que le président a demandé, mais il faut faire un suivi. Moi, je me demande si les services qui sont au niveau des barrières font ce qu'on appelle des évaluations trimestrielles. Ça peut aussi être mensuel, comme il y a quand même bon nombre d'accidents qui s'effectuent là-bas. Il devrait quand même organiser ce qu'on appelle les séances d'évaluation pour voir comment ont été les services rendus auprès de bénéficiaires. Mais aussi, nous devons rendre dignes et essayer de crédibiliser aussi les secteurs professionnels, je dirais même arts et métiers. Parce que vous avez des fois, dans le domaine surtout de la circulation routière, vous avez des chauffeurs, des chauffards, comme on a l'habitude de les appeler, les gens qui n'ont jamais assisté à ce qu'on appelle école de formation, qui n'ont jamais été sur le banc d'une école de formation.
Sans ça pour autant vous couper, dans les cas d'espèce, on dit que le chauffeur principal aurait cédé le volant à un chauffard.
Voilà. Donc, vous voyez, directement, on a vite trouvé la cause. Donc, il faut permettre à ces jeunes gens qui veulent être conducteurs de véhicules, commencer d'abord par apprendre. Et quand ils vont apprendre, c'est alors qu'ils pourront, peut-être dans 2 ou 3 mois, détenir ou être bénéficiaires d'un permis de conduire. Donc, j'espère que c'est à l'État, les responsabilités et tout, on envoie à l'État, parce que jusque-là, rien n'est encore mis en place. Il semble qu'actuellement, on ne délivre même pas les permis de conduire. Il y avait aussi un problème des plaques, ainsi de suite, il faut accélérer. Mais aussi des auto-écoles, comme on a l'habitude de les appeler, des auto-écoles, pour former les très bons chauffeurs, les chauffeurs disciplinés, les chauffeurs sécuristes, parce que il y a aussi ce qu'on appelle les aide-chauffeurs, qui est là. Non seulement parce qu'il ne sait pas conduire, peut-être qu'il sait conduire plus que l'autre, mais il est là pour assister. En cas de danger, comment alerter les services appropriés? Donc, il faut faire les suivis, pour rappeler, il faut faire les suivis, il faut faire des évaluations et aussi, il faut avoir des main-d'œuvre qualifiés, il faut avoir des chauffeurs formés. Voilà.
Et cela est valable pour toutes les routes derrière des
cibles. Absolument, je dirais même dans tous les domaines d'ailleurs.
Et Serge Banzaba Basunga, vous êtes au Congo central, vous savez ce qui se passe sur cette route nationale numéro 1, et vous entendez ce qui s'est dit au sujet de cet accident. À votre avis, que faut-il faire pour prévenir ce genre d'accident?
Merci beaucoup Guimaté. Il faut d'abord comprendre que ce qui vient de se passer là, c'est le fruit d'une corruption généralisée. Parce que je me pose la question, comment est-ce que ce véhicule a pu quitter Loupou avec des produits inflammables, les personnes là-bas à l'intérieur, et puis arriver vers Madambou? Donc il se pose un problème. Et des leçons à tirer, ou bien des précautions à prendre, je pense que le gouvernement doit réhabiliter, comme je l'avais dit au troisième tour précédent, réhabiliter la sanction en effet. C'est pour finir, c'est vrai. Il y a des gens qui sont en arrestation de façon préventive, mais il faut aller plus loin. Parce qu'au Congo, on n'a pas la culture de démissionner. Il faut compter des nombres. Tantôt, on nous dit que c'est 30 morts. Tantôt, c'est 90 morts. D'autres disent que c'est 100 morts. Il faut combien de morts pour qu'il y ait des démissions au Congo? Personne n'a démissionné. Au finir, vous verrez que personne n'a tort. Personne n'est à la base de ça. Donc, on va continuer. Je pense que c'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Et là, nous avons suivi à l'époque, avec l'ancien premier ministre Tshibala, qui s'est rendu à Loukou. il avait pris des précautions, il avait pris des mesures. Nous avons tous pris en cela. Mais après, nous apprenons que rien de sérieux ne se fait à Louvre. Je pense que ce gouvernement central est d'endurcir encore les lions, soit des instructions pour que nous puissions être protégés.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, une frange de l'opposition appelle le président de l'Assemblée nationale et du Sénat à accélérer le processus de désignation du porte-parole de l'opposition. Selon la loi sur les statuts de l'opposition, le porte-parole de l'opposition est l'interlocuteur attitré du gouvernement au sein de l'opposition. Moïse Katumbi Tchapwe, plébiscité candidat naturel, porte-parole de l'opposition, la plateforme Alternance pour la République, invite tous les députés membres d'Ensemble pour les changements à la responsabilité. Dans une déclaration à la presse samedi dernier à Kinshasa, la conférence des présidents de la plateforme AR estime que, fort de son assise de l'opposition, Moïse Katumbi est des droits éligibles à ses postes. Pour son secrétaire général, avec trois regroupements politiques au sein de l'Assemblée nationale, l'Ensemble pour les changements est largement majoritaire au sein de l'opposition parlementaire. Emery Patrice Olenga est au micro de Michel Kifindangoy.
La conférence de présidents réunie ce jour statue sur la question du porte-parole de l'opposition politique, l'alternance pour la République, rend publique la position suivante. 1. En tant que président d'ensemble pour le changement, ayant en son sein trois groupes parlementaires, à savoir AMK et Alliés, G7 et MS, il n'est que normal et logique que Moïse Katumbi soit le candidat naturel à ce poste. 2. Demande aux députés et sénateurs membres d'ensemble de saisir conjointement les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition, conformément à la loi 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en RDC. 3. Appel à la prise de conscience de tout parlementaire membre d'ensemble de se comporter en conséquence.
Edmond Izouba, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTVS, c'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Ces débats sur la désignation du porte-parole de l'opposition refait surface. Et à votre avis, c'est quoi l'élément déclencheur?
Non, mais c'est clair, l'élément déclencheur, c'est le radicalisme de certains dans la coalition Lamouka qui nous ont affiché Martin Fayulu comme président élu. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué de voir les présidents élus déclarer, par exemple, le poste de porte-parole de l'opposition. Pourtant, parce que lui, il estime être élu et être la présidence de la République. Donc, vous voyez, c'est déjà la première division. La deuxième division, c'est que on ne veut pas admettre dans la Mouka ceux qui font ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Ce sont ceux qui partent en pole position, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, en pole position dans cette bataille du porte-parole de l'opposition. Parce que la loi dit ça peut se faire par consensus ou soit par le Parlement. Mais là, ça exclut la première hypothèse déjà du consensus parce que ça...
Il y a des divergences.
Absolument internes qui ne pousseront pas des gens à aller consensus. Nous savons tous bien que Martin Fayulu va désister. Il se fera suivre par Adolphe Mozitu ou carrément Bemba et Moïse Katumbi pourront faire alliance. Mais moi, je me dis, les choses sont claires. La loi est claire portant statut de l'opposition et la constitution est claire là-dessus. Vous allez vous rendre compte que la coalition majoritaire ou les regroupements parlementaires les plus majoritaires dans la Mouka, parce que la Mouka fait office de l'opposition, c'est la coalition appartenant à Moïse Katumbi ou son regroupement ensemble. Donc, il n'y a même pas débat. J'ai dit qu'il ne devrait même pas y en avoir, à moins que Katumbi lui-même, parce que j'aurais appris que Katumbi ne serait pas preneur, mais il serait forcé de les prendre de force. Katumbi aurait souhaité que ce soit une autre personne. Nous ne savons pas comment ça va finir, cette bataille. Mais du moins, le plus favori jusqu'à la lie aujourd'hui reste Moïse Katumbi avec ses députés et sénateurs.
Merci, J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Les opposants, Moïse Katumbi l'a relevé, les opposants ont toujours du mal, n'est-ce pas, à s'accorder par rapport à cette question de la désignation du porte-parole de l'opposition. On le voit encore aujourd'hui, hein, pendant que l'AR et l'Ensemble pour le changement ont déjà plébiscité Moïse Katumbi. Les camps de la dynamique pour la vérité des urnes estiment qu'une telle démarche n'est pas cohérente.
Bon, il faut d'abord faire remarquer que c'est prévu par la Constitution de 2006 et que c'est depuis 2006 qu'on devait avoir ces porte-paroles. En 2006, on ne l'a jamais eu. Au cours de la législature 2011-2016, ça n'a pas aussi eu lieu.
C'est parce que les opposants ne se sont toujours pas accordés, n'est-ce pas?
Non, pas nécessairement ça. C'est parce qu'apparemment, la majorité au pouvoir depuis 2006 jusqu'à pratiquement 2018 n'avait pas aussi la volonté politique de voir en tout cas l'opposition s'organiser autour d'un porte-parole. Donc il n'y a pas que l'opposition qui bloquait ce processus-là.
Et mais actuellement, cette volonté politique est manifeste?
Aujourd'hui, il faut croiser les doigts, comme je le disais, pour voir les deux présidents de chambre du Parlement convoquer finalement cette plénière pour que l'opposition puisse désigner son porte-parole. Bon, maintenant, c'est au niveau des ambitions. L'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi est majoritaire. Et cette majorité-là, au sein de l'opposition, a affiché ses ambitions. C'est Katumbi, leur champion. Et j'ai même suivi sur Radio Kapi, les députés Christian Mwando Nsimba les clamaient tout haut. C'est avec raison. Ils sont majoritaires qu'au cas où il n'y a pas consensus, si on passait au vote, donc c'est les candidats d'ensemble qui passeraient. Mais l'idéal, ce serait de trouver un consensus au sein de l'opposition Lamuka pour qu'il n'y ait pas suffisamment de déchirements que nous avons remarqué au cours des débats sur la radio Kapi entre les pro Fayulu et les pro Katumbi. Je crois que pour les gens qui sont dans une même coalition, ça fait des ordres. Mais là, est-ce que cette volonté politique du président des deux chambres existe? Ça va se vérifier demain. Est-ce que les kabilistes, par exemple, vont accepter que Katumbi, qui est considéré par leur autorité morale comme étant les Judas et qui aurait trahi l'autorité morale, est-ce qu'ils vont accepter que cette désignation-là se fasse pour que Katumbi puisse être désigné porte-parole, c'est-à-dire l'interlocuteur valable du gouvernement, quelqu'un qui aura rang de ministre d'État, qui aura un budget à gérer, qui aura un état-major à coordonner? Ça, c'est aussi, c'est une question en tout cas qui reste à vérifier. Mais il faut reconnaître que s'il y a des divergences au niveau de Lamuka, c'est parce que Lamuka était une association momentanée. On est même surpris de se rendre compte que Lamuka continue jusqu'à maintenant. Est-ce que Lamuka va continuer à exister demain après, demain après qu'on ait désigné le porte-parole de l'opposition? Ça, c'est en tout cas la question qui reste en tout cas à élucider et la réponse pourra en tout cas nous être apportée peut-être demain après demain.
Serge Banzaba Basunga, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RDNC Matadi, dans tous ces débats, on n'entend pas la position du MLC. Jean-Pierre Bemba ne dit absolument rien. Comment vous analysez ce mythisme de Jean-Pierre Bemba?
Oui, certainement, Jean-Pierre Bemba ne peut pas attendre, mais ces gens parlent quand même, hein. Et ce qui est vrai, ça fait débat. Tout d'abord, ça fait la honte de l'opposition congolaise, incapable de vivre dans la diversité comme le prône la francophonie. La base est surtout dans les camps de nos parlementaires de lisser les critères d'éligibilité. Sinon, même l'opposition non parlementaire, ici j'ai fait allusion à leur base respective, qui risque de se fragiliser. Car pour les citoyens lambda, les porte-parole de l'opposition doivent avoir une langue pendante, agressive, daltonienne, qui confond les choses, donc un jeteur de mauvais sort. Moi, je pense que non. Les porte-parole qu'on va choisir ne doivent pas confondre les époques pour bien jouer son rôle. Admettre que Félix est le président de la République et que les avis de l'opposition ne sont pas exécutoires, mais tout simplement consultatifs, soit facultatifs. En tout cas, pour moi, évitons celui qui fait la propagation de la culture de la haine. Je me pose la question, pourquoi Bemba ne veut pas de Katumbi et vice-versa? Pourquoi Katumbi ne veut pas de Fayulu et vice-versa? Pourquoi cette méfiance? Tous doivent savoir que personne ne s'en tâche. Bemba a une partie de son histoire qui fasse autant pour Katumbi, autant pour Fayulu. Le vrai problème du matin, c'est pour les calculs électoralistes. Il n'est pas évident que si Katumbi représente l'opposition, ne sera le futur président de la République. Encore moins pour Bemba. Fayulu, je le compare aujourd'hui à Shadary. Lorsqu'on a un parti mené son groupe à la victoire, on doit démissionner pour laisser la place aux autres. Shadary a quitté la tête du parti. Fayulu a quitté la tête momentanément, mais ne veut pas se passer. Donc, Fayulu et Shadary sont deux cas similaires, non exemplaires, dans une démocratie au sein de nos partis.
Edmond Izouba, on connaît la position de la dynamique pour la vérité des urnes qui estime qu'elle n'est pas concernée, n'est-ce pas, par cette démarche parce qu'elle estime qu'elle est restée dans la résistance parce qu'elle s'engageait dans une telle démarche et c'est une façon de reconnaître que Félix est effectivement le chef de l'État. On connaît la position de Ensemble pour le changement qui est dans l'opposition républicaine et qui a même plébiscité Moïse Katumbi. Mais jusque-là, Jean-Pierre Bemba, le MLC ne dit rien. Comment vous analysez cela, le silence de Jean-Pierre Bemba, qui est le coordonnateur même de la MOUCA actuellement?
D'abord, je commencerai par dire que les députés de la dynamique de l'opposition, ils le savent, qu'ils ne sont pas nombreux au niveau du Parlement. Je ne sais pas si au Sénat, on en compte combien. Et ils savent que Martin Fayulu n'avait pas gagné. Ils savent qu'en principe, Martin Fayulu devrait soit faire ce qu'on appelle amende honorable, le fait de n'avoir pas gagné les élections et avoir bénéficié de l'appui des autres et laisser la place à d'autres personnes.
Alors, s'il faut que vous puissiez vous mettre à leur place et qui estiment que ce sont eux qui avaient gagné les élections et qui disent qu'ils ne peuvent pas s'engager dans cette démarche pour la désignation du porte-parole de l'opposition, et vous ne pensez pas que leur position, elle est cohérente?
Faux et archi-faux. Ils saisissent le gouverneur de la ville sur base de quoi s'ils savent qu'aujourd'hui, c'est Martin Fayulu qui est le président. Moi, je les ai vus tous à la marche du CLC. Vous savez vous-même, l'objectif de cette marche, de cette mobilisation, était donc de demander au président de la République de sanctionner tous ses proches collaborateurs impliqués dans le dossier 15 millions de dollars. Mais comment ils peuvent en même temps demander au président de la République, qui est reconnu président Félix Tshisekedi, en même temps rester dans la logique où ils considèrent tous que Martin Fayulu est leur président?
Voilà, donc Bemba,
il jouit de son hypocrisie habituelle. Donc on le sait.
Pourquoi hypocrisie?
Non, mais Bemba, on le sait, lui, il fait la politique la nuit où personne ne le voit quand il se déplace, personne ne le voit quand il fait.
Apparemment, donc, vous êtes avec lui quand il est.
Non, même ça va tous. Actes, hein. Ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, porte-parole Moïse Katumbi est parmi les quatre vice-présidents qu'on retrouve, les membres du MLC. Donc j'ai dit que Bemba, nous les connaissons tous. C'est comme ça qu'on était tous étonnés de voir dans tous les gouvernements qui passaient, qu'on appelait les gouvernements d'Union nationale, avec Joseph Kabila, qu'on trouvait les membres du MLC. Voilà. Donc nous les savons, nous savons tous les acteurs politiques et leur jeu, comment ça fonctionne pour le moment.
Hier, Mokolo, votre réaction?
Bon, je me rends compte que Edmond Izouba, en tout cas, il a reçu mission de pouvoir descendre en flamme les opposants, parce qu'il s'oppose à celui qui est aux affaires, peut-être qui est dans le même cas, avec qui il partage les mêmes intérêts. Donc, on ne peut pas revenir sur la vérité des urnes. Moi, je me dis, le fait que Fayulu a sa position, qui refuse de reconnaître les institutions en disant que celui qui avait gagné, ne va pas empêcher la désignation du porte-parole. Donc je pense qu'il faut respecter sa position, il faut pas les diaboliser, il faut pas dire que Bemba est hypocrite, en quoi est-il hypocrite. Lui, Edmond Izouba, connaît Jean-Pierre Bemba, à ce que je sache, il n'est pas son ami, il vit pas ensemble, il partage pas le même thé ensemble. Donc je crois que c'est trop prétentieux de dire que il connaît Jean-Pierre Bemba. Je me dis ceci, Jean-Pierre Bemba est en train de se rendre compte que peut-être qu'il y a des divergences, et il est en train d'observer, et peut-être qu'en coulisses, peut-être que ça faire beaucoup de bruit, il est en train de jouer la médiation entre les différents camps en tant que coordonnateur de la MOUCA qui s'oppose au sein de Merci. Cette plateforme de l'opposition.
Merci Serge Banzaba Basunga. Quel est le scénario possible au sujet de ces débats? Ça pourrait aboutir à quoi?
Le scénario possible, on peut appliquer à l'avènement d'un troisième larron, hein, parce que je me dis que lorsqu'il n'y a pas entente, on peut nous y prendre par les parlementaires, parce que je ne connais pas trop la procédure à la matière, mais logiquement parlant, en principe, c'est Moïse Katumbi, parce que il représente beaucoup, dans sa plateforme ensemble, il y a trois groupes parlementaires. On peut simplifier les choses. Moi, je pense que...
Serge, ceux-là qui pensent que, compte tenu des rapprochements de Moïse Katumbi avec Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi ne serait pas les bons porte-parole, compte tenu de son rapprochement avec le chef de l'État.
Dans l'entendement des gens du FCC, dans leur entendement, rapprochement veut dire être ensemble, FCC, on peut se rapprocher sans pourtant qu'il y ait problème. Donc le rapprochement, c'est pour contre, parce que les opposants ne sont pas les ennemis.
Merci. Merci Serge Basunga, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Didon Nyangasa qui est à la technique et Kéline Koute qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. Devant ses micros, Guy Maté, merci et bon suite au programme sur Radio Capi.